Un journal présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. L'idée de l'introduction d'un âge pivot dans le cadre de la réforme des retraites peut-elle tenir après 5 semaines de mobilisation contre cette réforme? Édouard Philippe pourrait s'exprimer rapidement sur cette mesure de l'âge pivot. C'est en tout cas ce qu'indique ce soir Laurent Berger, qui vient d'être reçu par le Premier ministre en direct de l'hôtel Matignon. On retrouve Annabelle Grelier pour un point sur les discussions en cours dans un instant. La Convention citoyenne pour le climat s'apprête à recevoir Emmanuel Macron. Les 150 citoyens tirés au sort qui planchent chaque week-end depuis octobre ont des questions précises à poser au chef de l'État et qui, lui, aura sans doute fort à faire pour les convaincre du bilan environnemental de la première moitié de son quinquennat. Précision à suivre avec Véronique Robérotte. L'actualité internationale avec la timide ouverture des autorités iraniennes dans l'enquête sur le crash avant-hier d'un Boeing d'Ukrainian Airlines. Nous ferons le point avec Grégory Phillips. Et puis dans ce journal également, l'enquête du service investigation de Radio France sur les activités dans la vie politique française d'un homme d'affaires évoluant entre charity business et optimisation fiscale, Nicolas Bergruen, ce sera avec Benoît Colomba. Le gouvernement tient encore à l'idée de l'introduction d'un âge pivot dans la réforme des retraites. Matignon vient d'ailleurs d'expliquer qu'une telle mesure permettrait 3 milliards d'euros d'économies d'ici 2022 et pas moins de 12 milliards à l'horizon 2027. Raison pour laquelle l'âge pivot est bien inscrit noir sur blanc dans le projet de loi transmis hier soir aux caisses de sécurité sociale. Problème, les syndicats sont toujours et de plus en plus fermement opposés à cette mesure. Mesure aveugle et injuste, d'après la CFDT de Laurent Berger. Annabelle Grelier a suivi les négociations en cours à Matignon toute la journée.
Les syndicats, tous braqués contre l'âge pivot à 64 ans, avec un bonus-malus proposé par le gouvernement, n'espéraient aujourd'hui qu'une seule chose, l'annonce du retrait de cette mesure budgétaire. Une annonce qui n'est pour l'heure pas arrivée. Le patronat, de son côté, a rappelé la nécessité de cette mesure pour assurer l'équilibre du système. Ce n'était donc pas l'heure du compromis pour le MEDEF de Geoffroy Roux-de-Bézieux.
On n'en est pas au compromis, on en est déjà à savoir combien tout ça coûte. Pour avoir un compromis sur le financement, comme sur d'autres choses, il faut avoir les chiffres. Or, on n'a pas tous les chiffres aujourd'hui. On parle de l'âge pivot 2022-2027. Mais il y a aussi l'âge d'équilibre du futur régime. Et pour avoir l'âge d'équilibre du futur régime, il faut savoir comment on sera financé. Donc on ne peut pas avoir un compromis comme ça en 24 heures. Enfin, ça ne serait pas responsable.
Laurent Berger de la CFDT, qui avait réclamé cette conférence du financement, est resté longuement dans le bureau du Premier ministre. Et à la sortie, à peine a-t-on pu entrevoir une petite lueur d'espoir de sortie de crise.
Nous, vous aviez très bien compris qu'on souhaitait faire cette conférence de financement d'ici le mois de juillet. Le gouvernement ne nous a pas caché qu'il souhaitait que ce soit avancé. On est prêt à regarder ça de près, mais vous avez bien compris qu'on attend un geste. Et ce geste, c'est celui qu'on attend dans les jours à venir ou rapidement, comme nous a dit. Moi, je ne sais pas quand le Premier ministre va s'exprimer, ça ne m'appartient pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut que dans le projet de loi qui sera déposé, et donc il faudra rectifier celui qui a été proposé au Conseil d'État, il faudra que cette notion d'âge d'équilibre soit enlevée.
La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Soit il maintient son calendrier et joue le pourrissement du conflit, soit il retire l'âge pivot, tout du moins du texte du projet de loi tel qu'il a été transmis au Conseil d'État, et un apaisement est enfin envisageable.
Un reportage d'Annabelle Grelier. En attendant demain une nouvelle journée de mobilisation dans la rue, de nombreuses actions de protestation avaient lieu aujourd'hui. Des dépôts de tramways et de bus ont été bloqués ce matin, notamment à Marseille, Nancy, Dijon ou Nantes. Alors qu'au palais de justice de Paris, les avocats en grève et en colère contre cette réforme des retraites ont réussi à perturber l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation à laquelle assistait la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Écoutez le reportage de Florence Turme.
Nous sommes dans cette salle symbolique des pas perdus.
Pierre-Olivier Sûr, ancien bâtonnier du barreau de Paris.
Salle très symbolique du palais de justice de l'île de la Cité. La dernière fois que nous nous y sommes rassemblés, tous en robe, c'était le lendemain de Charlie.
Sur fond de sirènes et de sifflets, les avocats se rassemblent au pied du grand escalier de pierre.
Cette réforme qui va doubler nos cotisations, qui va baisser nos pensions, va tuer nos cabinets.
«
Puis ils s'allongent sur les dalles de marbre blanc avant de jeter leurs robes au sol. Geste symbolique, notamment pour les plus jeunes. Ils étaient nombreux, venus aussi des autres barreaux d'Île-de-France, comme Sonia Boundaoui, membre du syndicat des avocats de France.
Alors moi, ça fait 7 ans aujourd'hui que j'ai prêté serment. Dans quelques jours, ça fera 7 ans. Dans le barreau du 93 notamment, beaucoup de jeunes s'en sortent difficilement. Parce qu'on a une population qui n'est pas forcément aisée, parce qu'on est nombreux à avoir beaucoup de dossiers à l'aide juridictionnelle. Ce sont donc des coûts qu'on va devoir, si jamais les cotisations augmentaient, répercuter sur les honoraires de nos clients. Donc par exemple, on ne prendra plus l'aide juridictionnelle, c'est aussi simple que ça. Beaucoup de jeunes confrères vont très certainement disparaître, parce que les cotisations qui passeraient de 14% à 24% du chiffre d'affaires des avocats va nécessairement impacter les petits cabinets qui vont être obligés de mettre la clé sur la porte, parce que même en répercutant sur leurs clients qui sont éligibles à l'aide juridictionnelle, eh bien, ça ne sera pas possible.
Reportage de Florence Sturm. Demain, le trafic SNCF sera toujours perturbé avec 80% des TGV en circulation, un TER sur deux et 40% des transiliens d'après les chiffres communiqués tout à l'heure par la direction de la SNCF à la RATP. Le trafic sera très perturbé. Toutes les lignes vont circuler, toutes les lignes de métro, mais de manière très partielle. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle fait suite à la diffusion d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant une altercation entre des policiers et un groupe de manifestants. C'était hier dans le cortège de la manifestation parisienne. On y voit ce qui semble être un tir de LBD quasiment à bout portant sur un manifestant. C'est l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, qui est saisie de cette enquête. Et c'est dans ce contexte que va s'ouvrir demain une conférence citoyenne sur les rapports entre population et forces de l'ordre. Une centaine de Français y participeront ce week-end et le week-end prochain. Ce sera au ministère de l'Intérieur, la place Beauvau, qui vante une démarche participative inédite en plein débat en France sur les violences policières. Voilà qui ressemble à s'y méprendre à ce qui se passe en ce moment sur le front du climat. La Convention citoyenne pour le climat, qui réunit, elle, 150 citoyens, en est à sa 4e session au Conseil économique, social et environnemental. Et elle reçoit ce soir la visite d'Emmanuel Macron, qui sera prié de répondre à 8 questions. Bonjour Véronique Roberotte.
Bonjour.
En direct du CESE à Paris, le chef de l'État est attendu à partir de 18h30 dans le cadre d'un dispositif qui devrait ressembler à celui du grand débat.
Exactement. En tout cas, c'est la première fois qu'Emmanuel Macron rencontre à leur demande les 150 Français de la Convention citoyenne sur le climat. À peu près au milieu de leur réflexion, ils remettront leurs conclusions, leurs propositions pour lutter contre le réchauffement climatique en avril prochain. Alors en attendant le président, qui doit s'exprimer dans une petite demi-heure, brièvement, nous a-t-on dit, quelques mots d'introduction avant de répondre à des questions et de discuter librement jusqu'à 20h. Eh bien, en attendant, ces citoyens ont travaillé cet après-midi comme si de rien n'était, chacun dans leur groupe, chacun dans leur commission. Le président Macron a promis de ne pas influencer leurs travaux et ça tombe bien, ils n'y tiennent pas du tout. En parlant tout à l'heure avec quelques-uns de ces 150 participants à la Convention citoyenne sur le climat, eh bien ils espèrent bien, au-delà du discours aujourd'hui du président, que ce dernier les écoutera surtout et qu'il prendra en compte eh bien leur travail, leur réflexion, comme Emmanuel Macron s'y est engagé, que leurs conclusions seront soumises sans filtre. Ils insistent là-dessus, c'est un engagement aussi du président, soumis sans filtre soit au vote du Parlement, soit à référendum, d'hommes soit appliqué réglementairement directement. Ils lui diront tout ça tout à l'heure, poseront, vous l'avez dit, 8 questions qu'ils ont choisies ensemble. Rien n'a filtré sur la teneur d'ailleurs de ces questions, en tout cas en direction des journalistes. Emmanuel Macron lui se tiendra physiquement au milieu de ces 150 Français façon grand débat pendant 1h30 donc minimum.
Merci Véronique Roberotte. En marge de cette convention citoyenne, 46 députés de divers bords ont réclamé ce matin dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre une évaluation climatique des lois. Le courrier, également adressé à la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, plaide pour une transformation méthodologique majeure dans la façon de fabriquer la loi. Les signataires, parmi lesquels figurent Erwan Balanon du Modem ou les marcheurs Cédric Villani et Barbara Pompili, expliquent que le Parlement français, qui a inscrit l'urgence climatique dans la loi relative à l'énergie et au climat, doit aller en quelque sorte jusqu'au bout de sa démarche. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir.
L'idée pour ces députés, c'est de ne plus méconnaître les conséquences climatiques de chaque loi pendant sa préparation, son examen et son application.
Et le texte adressé au Premier ministre ce matin ne fait que reprendre les conclusions du Haut Conseil pour le climat présenté mi-décembre. Et dans ce rapport, le constat était sans appel. La France ne pilote pas sa stratégie pour atteindre la neutralité carbone. Écoutez bien, seuls 3% des articles de loi étudiés sont évalués sous l'angle climatique. C'est insuffisant, disent aujourd'hui les signataires du texte, à l'image du député du Maine-et-Loire Mathieu Orphelin, ancien porte-parole de Nicolas Hulot.
On dit au gouvernement, c'est le moment de systématiser l'évaluation climatique des lois. C'est une volonté commune de dire oui, le changement climatique, c'est le défi du siècle. Oui, il faut maintenant que les lois que nous votons et que nous appliquons dans notre pays soient évaluées à l'aune de leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
Alors ce que demandent les députés aujourd'hui, c'est qu'il y ait une étude systématique de l'impact climatique des projets de loi et qu'après adoption, il y ait un suivi, une étude d'impact. Les textes ne répondant pas à ces exigences seraient alors recalés d'office. On le voit, cette évaluation climatique des lois n'est qu'une première étape. Avant inscription de la neutralité carbone ou de l'urgence climatique dans la Constitution, cela avait été imaginé par les formations politiques au moment de la réforme constitutionnelle, réforme inachevée, rappelons-le, victime collatérale de l'affaire Benalla.
Merci Pierre Neveu. La centrale à charbon du Havre en Seine-Maritime fermera le 1er avril 2021, alors que la France veut renoncer à cette source d'énergie très polluante. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le gouvernement. La France veut fermer ses quatre dernières centrales à charbon d'ici 2022. Une promesse d'Emmanuel Macron lors de sa campagne en 2016. Lufthansa a annoncé aujourd'hui l'annulation de ses vols quotidiens vers Téhéran, au moins jusqu'au 20 janvier. Mesure de sécurité prise alors qu'une enquête d'ampleur désormais internationale est en cours pour tenter de déterminer les causes réelles du crash d'un Boeing d'Ukrainian Airlines avant-hier. 176 morts, dont une majorité de citoyens canadiens. L'Iran est soupçonné d'avoir accidentellement abattu l'avion qui venait de décoller de Téhéran à destination de Kiev, ce que nient toujours les autorités du pays qui ont décidé néanmoins de laisser des enquêteurs américains, canadiens et français participer aux investigations. Des experts ukrainiens viennent d'ailleurs, explique-t-il, d'obtenir l'accès aux boîtes noires. Envoyé spécial à Toronto au Canada, Grégory Phillips.
À la demande du ministre des Affaires étrangères canadien, François-Philippe Champagne, une équipe du Bureau de la sécurité des transports est en route pour Téhéran. Là-bas, les Canadiens travailleront avec des experts ukrainiens, une cinquantaine au total, déjà sur place. Comme le prévoient les conventions internationales, l'enquête sur ce crash a été confiée au pays où s'est produit l'accident, à l'aviation civile iranienne. Et donc, ce sont les Iraniens qui vont diriger les opérations. Il y a notamment une question très importante, c'est la lecture des boîtes noires de l'appareil. Il faudra voir si Téhéran accepte ou non de les livrer à un pays tiers comme la France, par exemple, capable de les analyser. Les experts canadiens expliquent aussi qu'ils vont examiner le fuselage de l'appareil, car si l'avion a bien été touché par un missile, il y aura forcément des traces et des marques. Enfin, les autorités canadiennes ont demandé à pouvoir envoyer sur place des diplomates pour aider à l'identification des victimes, car Téhéran et Ottawa ont rompu leurs relations diplomatiques depuis 2012. Mais le Premier ministre Justin Trudeau veut faire toute la lumière sur ce crash. L'émotion est immense dans le pays, et notamment dans cette grosse communauté irano-canadienne canadienne qui vit ici à Toronto.
Grégory Phillips, les autorités suédoises ont suspendu vendredi les vols directs entre la Suède et l'Iran, invoquant un manque de clarté après le crash d'avant-hier. Et puis dernière déclaration en date dans cette affaire, celle du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui estime qu'il n'y a aucune raison de ne pas croire les informations de plusieurs pays occidentaux selon lesquels la catastrophe est bien due au tir accidentel d'un missile iranien. En Algérie, la police a dispersé aujourd'hui dans le centre d'Alger une manifestation contre le régime peu avant la 47e marche hebdomadaire du Hirak, le mouvement populaire de contestation qui secoue l'Algérie depuis février dernier. Des policiers, dont certains armés de matraque, ont chargé un groupe de plusieurs dizaines de personnes qui scandaient des slogans hostiles au régime. En Inde, la situation au Cachemire pourrait-elle un peu s'améliorer pour ses citoyens? En août dernier, le gouvernement indien de Narendra Modi révoquait l'autonomie de cet État à majorité musulmane. En même temps, New Delhi emprisonnait la plupart des politiciens locaux et coupait les communications. Aujourd'hui, cinq mois après, les accès Internet demeurent complètement coupés dans toute la région du Cachemire. Mais la Cour suprême indienne vient d'ordonner au gouvernement de revoir ses restrictions. Une mesure en demi-teinte qui redonne quand même un peu espoir. Correspondance à New Delhi, Sébastien Farcy.
L'accès à l'Internet permet l'exercice de la liberté d'expression. C'est donc un droit fondamental reconnu par la Constitution. Le principe édicté par la Cour suprême est fort, mais les juges restent timides sur son application au Cachemire. Ils demandent seulement au gouvernement de leur fournir d'ici une semaine la liste des ordres de coupure de l'Internet dans la région, ceci afin d'évaluer si ces interruptions sont justifiées. Au Cachemire, la population n'ose même plus espérer. Cela fait 5 mois qu'elle vit sans Internet pour des raisons de sécurité, selon le gouvernement. Les étudiants, hommes d'affaires ou ceux qui veulent remplir des papiers urgents en ligne parcourent 130 km dans la journée pour se rendre dans l'état voisin du Jammu et revenir. Les médias du Cachemire n'ont pas d'internet mais peuvent se connecter dans un centre dédié ouvert pendant la journée. Les commerces, eux, ont peu de recours. Un institut spécialisé estime que cette coupure du réseau a entraîné un manque à gagner d'1 milliard d'euros en 2019.
Sébastien Farcy, notre correspondant à New Delhi. C'était il y a 3 mois, sa candidature avait été rejetée à cause de l'affaire des assistants parlementaires du Modem, mais aussi en raison de ce que pendant 2 ans, Sylvie Goulard a été rémunérée par un think tank américain, l'Institut Berggruen. C'est l'enquête de cette édition qui est consacrée ce soir à Philippe Berggruen. Bonsoir Benoît Colomba. Avec Anne Fauquemberg, vous allez nous parler de cette enquête que vous avez réalisée sur cet homme d'affaires qui a créé cet institut, Nicolas Berggruen.
Oui, Nicolas Berggruen, c'est un milliardaire de 58 ans qui fait partie de la famille des Warren Buffett ou des Bill Gates qui prône le charity business, les actions philanthropiques, ce qui ne l'empêche pas d'être un champion de l'optimisation fiscale et surtout d'être très influent en Europe à travers son think tank, l'Institut Berggruen.
Et ce que vous avez découvert, c'est que Nicolas Berggruen, il connaît bien Emmanuel Macron.
Oui, alors en fait, les deux hommes se croisent pour la première fois lorsqu'Emmanuel Macron travaille pour la banque Rothschild entre 2008 et 2012. Nicolas Berggruen est alors administrateur du groupe de presse espagnol Prisa, aux côtés du français Alain Minc, lui-même membre de l'Institut Berggruen. Emmanuel Macron les conseille, notamment lorsqu'il tente de prendre le contrôle du journal Le Monde, mais ça ne s'arrête pas là. Cette relation, elle se poursuit lorsqu'Emmanuel Macron devient secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2012, sur les conseils d'Alain Minc.
Je l'ai envoyé voir Macron quand Macron était secrétaire général adjoint de Hollande, parce que je trouvais bien que Berggruen puisse exposer à quelqu'un d'ouvert d'esprit ce qu'il faisait. Il fallait qu'il dialogue avec la France de l'époque. Dans l'entourage de François Hollande, je considérais que le type le plus à même d'entendre, de comprendre, d'être en phase, c'était Macron. Il vendait ses idées, l'action d'institut, comme il le faisait au 10 Downing Street, comme il le faisait à la chancellerie à Berlin, ni plus ni moins.
Ah, ni plus ni moins, dit Alain Minc. Cela dit, si Nicolas Berggruen va voir Emmanuel Macron à l'époque, ce n'est pas complètement par hasard, comme l'explique le journaliste Marc Andevelde, auteur de 2 livres enquête sur l'actuel chef de l'État.
Emmanuel Macron se prépare et déjà activement pour sa propre ambition politique. Il multiplie, y compris dans le dos du président de la République, des rencontres entre communicants et grands patrons à l'Élysée même. Ça se passe souvent le week-end, hein, à l'abri des regards. À cette période-là, il rencontre Nicolas Berggruen de nouveau à l'Élysée. Donc ce n'est pas uniquement pour faire passer des messages, c'est également tout un environnement qui se met en place où tous ces gens-là des milieux d'affaires s'intéressent grandement à Emmanuel Macron.
Et ce que vous avez aussi découvert, Benoît, c'est qu'un peu plus tard, Nicolas Berggruen fait partie des donateurs du futur président.
Oui, et il le fait même en famille. On le comprend bien dans les Macron Leaks, cette vaste fuite de mails juste avant le second tour de la dernière présidentielle. Le frère de Nicolas Berggruen, un marchand d'art installé aux États-Unis, envoie à l'équipe Macron ce message que nous avons fait lire.
Dans l'immédiat, je propose de donner 4000 euros au mouvement et 4000 euros au candidat. Mon frère, Nicolas, transmet de Los Angeles ses amitiés à Emmanuel Macron, qu'il connaît mieux que moi, et nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez.
Et tout comme son frère, Nicolas Berggruen met donc lui aussi la main au portefeuille, comme il nous le confirme, en français, depuis ses bureaux de Los Angeles.
L'Europe et le monde a une chance énorme d'avoir Emmanuel Macron en tant que président.
Est-ce que vous avez soutenu financièrement sa campagne, comme votre frère, Olivier ?
Oui, j'ai mis ce qu'on pouvait mettre légalement parce que je trouvais qu'il était formidable. Et heureusement, il est devenu président.
Et il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui a les faveurs de Nicolas Berggruen. Dans son institut, on retrouve quasiment tous les anciens responsables européens de ces 30 dernières années. Jacques Delors, Mario Monti, Tony Blair, Felipe González ou Nicolas Sarkozy.
Merci Benoît Colomba, votre enquête est à retrouver en longueur sur le site de France Culture, franceculture.fr. Ciel chargé mais temps sec demain d'après les prévisions de Météo France, de belles éclaircies sont à prévoir. Au petit matin, le thermomètre affichera de 0 à moins 2 degrés sur le centre-est de la métropole, jusque dans les vallées pyrénéennes. On attend entre 1 et 5 degrés ailleurs, maximale comprise entre 6 et 11 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé en collaboration avec Brice Garcia.